Myriam Benrad, bonjour.
Bonjour.
Géopolitique de la colère, c'est novateur d'introduire les émotions, la colère dans la géopolitique. Pourquoi avez-vous fait ce choix ?
Alors, ce choix a été inspiré par plusieurs choses. D'une part, l'importance à mes yeux de réintroduire la question des émotions dans l'étude, l'analyse des relations internationales et plus particulièrement de la géopolitique. Donc c'était, l'ambition conceptuelle théorique de départ. Et puis ensuite, le livre a été rédigé en 2019, au moment où un certain nombre de contestations sociales ont explosé ici et là, à travers le monde, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique latine. Et donc il m'a semblé intéressant, dans une perspective comparative, d'essayer d'appréhender l'émotion centrale à toutes ces contestations, toutes ces manifestations, qui est bien la colère. Qui est d'ailleurs une émotion primaire en psychologie, quand je dis primaire, une émotion fondamentale de laquelle découle un certain nombre d'autres affects que j'essaie d'analyser aussi dans le livre.
Ce que vous montrez dans le livre, c'est que l'élément déclencheur d'un pays à l'autre est peut-être différent, et souvent différent, mais il y a des continuités transnationales qui traversent cette colère.
Il m'a semblé important d'essayer de briser un certain nombre de clichés ou d'a priori qu'on peut avoir sur le plan culturel, en ayant, en l'occurrence, assigné pendant longtemps certaines émotions à certaines aires géographiques. Par exemple, la question de la colère a souvent été traitée dans le contexte moyen-oriental des crises dans cette région, notamment, par exemple, la question de la contestation islamiste. Bernard Lewis, dont j'essaie de déconstruire la thèse dans mon ouvrage, a parlé dans les années 90 de rage musulmane. Moi, il m'a semblé important d'aller au-delà de ces a priori culturalistes pour essayer justement de démontrer que non, on a bien un phénomène transnational à l'œuvre. Il est difficile d'assigner, encore une fois, cette émotion à une aire géographique particulière, d'autant que l'arrière-plan aussi de l'ouvrage, c'est toute une réflexion sur la question de la globalisation et de ces phénomènes de transnationalisation, ce qu'ils impliquent.
Oui, le sous-titre de votre livre, c'est donc « Géopolitique de la colère » et le sous-titre « De la globalisation heureuse au grand courroux ». Donc, la colère actuelle est-elle adossée à la globalisation ?
Alors, la deuxième partie de l'ouvrage est intitulée « Colère dans et contre la globalisation ». Il m'a semblé important déjà de démontrer que cette colère, même à l'état latent, elle est consubstantielle en fait à ce qu'on appelle la globalisation et elle vient remettre en question l'approche qu'on a pu avoir pendant longtemps d'un phénomène heureux, de processus qui satisferait tout le monde. Ce n'est pas le cas.
Oui, vous parlez d'une promesse trahie, d'une félicité partagée.
Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée d'une promesse qui a été faite, je pense, au peuple dans les années 90, qui s'est plutôt traduite par la montée des inégalités, des injustices, etc. Et donc contre la globalisation, parce qu'aujourd'hui, alors qu'elle était peut-être à l'état latent jusqu'à la fin des années 90, elle s'exprime de manière très violente. Alors, ça passe par le terrorisme, ça passe par la montée des populismes, le reflux des nationalismes, et ça passe par ces implosions sociales ici et là qui en disent long, en fait, sur cette promesse trahie.
Mais paradoxalement, cette colère, c'est ce que vous dites dans votre livre, peut être aussi une puissance constructive dans la globalisation ?
Oui, l'un des points de l'ouvrage est aussi de souligner l'ambivalence, l'ambiguïté foncière de cette émotion. Parce qu'en effet, la colère, elle peut être impulsive, destructrice. Elle peut ravager des pays entiers. Elle peut se retourner contre ceux qui la portent aussi. J'essaie de ce point de vue de discuter, par exemple, la question féministe du mouvement MeToo et de la manière dont la colère portée par les femmes a pu, dans certains cas, se retourner contre elles, malheureusement. Et sur un second plan, oui, c'est une émotion qui peut aussi être extrêmement constructive, positive, lorsqu'elle s'attache à dénoncer précisément des injustices sociales, politiques, de genre, et qu'elle porte le changement, parce que c'est aussi à travers elle que le changement, le progrès peuvent se mettre en branle.
Une colère salvatrice ou en tous des cas positive. Vous citez notamment la lutte contre le réchauffement climatique. Vous dites que l'émotion-là a permis une prise de conscience, mais que l'émotion est le principal atout de ce mouvement.
Oui, parce que Alors, en réalité, ce que j'essaie de démontrer aussi, c'est qu'il y a généralisation de la colère. C'est-à-dire qu'au départ, on avait des mouvements militants, qu'ils soient féministes, écologistes ou autres, qui la portaient comme instrument d'expression de leur cause. Et par exemple, sur la question environnementale et plus précisément du réchauffement climatique, aujourd'hui, on est sur un enjeu global qui a été réapproprié par les populations au sens large et qui n'est plus seulement cantonné aux mouvements militants qu'on a pu connaître à partir des années 70. Là, aujourd'hui, on a généralisation, et ce qui est intéressant aussi, c'est la dimension générationnelle, avec évidemment, de manière très symbolique, cette allocution de la jeune Greta Thunberg devant les dirigeants de l'ONU pour dénoncer l'inaction, l'impéritie des structures multilatérales, des gouvernements face à un changement qui est en train de rattraper la planète entière, et on en ressent déjà les effets.
Et quand vous parliez tout à l'heure de colère destructrice, vous avez effectivement un chapitre qui s'intitule « Radicalisme, une rage sans horizon ». Les rages, les colères peuvent aussi avoir leurs limites, c'est ça ?
Oui, alors ça c'est aussi très lié au chapitre dans lequel j'essaie de décliner justement les émotions rattachées à la colère, parce que dans le cas des fondamentalismes, des radicalismes de tout type, plus particulièrement du terrorisme violent, donc lorsque cette radicalité passe à l'acte, on a des sentiments, des émotions telles que la rancœur, l'amertume, la rage, la haine, la vengeance, le désir de vengeance qui, en fait, entraîne vraiment dans une spirale infernale les acteurs donc de cette violence et puis aussi leurs victimes, évidemment. Et donc la question du terrorisme, cette lutte interminable contre le terrorisme, elle est très, à mon avis, caractéristique. La manière dont la colère, même lorsqu'elle part dans certains cas d'un, comme je disais, d'une dénonciation légitime, peut sombrer dans une violence sans horizon, et le terrorisme en est très représentatif.
Alors, vous avez employé plusieurs termes jusqu'à présent. Effectivement, vous insistez aussi sur la nécessité de catégoriser les émotions.
Oui, alors c'est le chapitre de départ. Qu'est-ce qu'on entend par colère? Quelles sont les origines de cette émotion aussi sur le plan historique? Est-ce qu'elle a été vécue, ressentie, exprimée de la même manière dans l'Antiquité et par les contemporains? J'essaie de démontrer que non, que tout cela est lié à des séquences historiques et aux transformations des émotions elles-mêmes sur le plan social. Mais c'est vrai que j'essaie de mobiliser tout un pan de la littérature en psychologie sociale pour essayer de déblayer un peu ce qu'on entend par là. Et comme je l'ai dit, l'émotion de la colère est primaire, mais elle s'articule autour d'un certain nombre d'autres émotions qui sont nommées secondaires et tertiaires, et parmi lesquelles, j'ai déjà cité la haine, la rancœur, le ressentiment, mais on a aussi d'autres émotions, la peine, la tristesse, le dégoût, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est très complexe, en fait, hein, parce que parler de la colère, c'est aussi vraiment toucher à énormément de notions, d'émotions et donc de phénomènes qui aujourd'hui travaille toute la géopolitique mondiale.
Et quand on parle de colère, Myriam Benrad, on pense au peuple, mais vous incitez aussi sur ces États qui fonctionnent sur le registre de la colère, ces États ou ces dirigeants d'ailleurs.
Oui, c'est aussi l'objectif du livre, essayer d'introduire un peu de méthodologie, parce que évidemment confronter la géopolitique aux émotions, et en l'occurrence donc à une émotion fondamentale, la colère, c'est quand même essayer du point de vue méthodologique de constituer un cadre d'étude. Au niveau de la géopolitique, on a différents acteurs. Les États en font partie, les gouvernements aussi. Les dirigeants en sont représentatifs. Les diplomaties aussi, j'en parle dans le livre. Qu'en est-il en fait de ces acteurs? Et là, par exemple, sur la question des États, j'essaie de démontrer en quoi la colère, en fait, depuis plus longtemps, est aussi un instrument stratégique. Par exemple, elle l'a été dans un certain nombre de négociations. Au niveau des dirigeants, c'est aussi devenu un outil à part entière de diplomatie, de négociation avec l'autre. Trump en est très représentatif, il en a fait sa marque, mais aussi, je dirais, un instrument privilégié de politique intérieure comme de politique extérieure. Ça, c'est tout le chapitre sur le populisme, dans lequel j'essaie de démontrer que ces fameux leaders populistes, évidemment, leur principal ressort, c'est l'usage de la colère pour percer électoralement et imposer leurs idées au plus grand nombre.
Des politiques qui peuvent aussi avoir leurs limites.
Je dirais, il y a une forme de pari. Ça peut conduire certains dirigeants à imposer leur vue sur un certain nombre de dossiers. Ça peut aussi se traduire par l'impasse. Par exemple, sur la question des conflits, j'essaie de démontrer qu'un certain nombre de conflits gelés sont aussi le fait d'une colère au plan politique et au plan sociétal, insurmontable et qui donc se traduit par l'impasse en fait, par un non-règlement d'un certain nombre de crises qui pourtant appellerait au contraire à la fois de la coopération, du dialogue et même dans certains cas de la bienveillance pour essayer de trouver des solutions. Ouais, c'est très caractéristique de la Syrie, du conflit israélo-arabe, etc.
Ouais, vous parlez pour le conflit israélo-palestinien, deux peuples saturés de colère. Alors justement, vous avez commencé à y répondre. Que faut-il faire face à cette colère qui s'exprime? Dans votre conclusion, vous parlez de nécessaire générosité, de pardon.
Oui, pour le coup, j'ai mobilisé notamment les travaux de la philosophe américaine Martha Nussbaum, qui, elle, pense en fait qu'il faut un renouvellement du régime émotionnel qui gouverne le monde. Donc, elle s'attache notamment dans ses travaux à la question du pardon, la question de la bienveillance, de l'empathie, de la générosité. Par exemple, dans le contexte de la crise actuelle du Covid, aujourd'hui, on est un peu sur une forme d'apathie généralisée du fait du confinement et de la gestion au jour le jour de la crise. Mais il y a déjà des phénomènes de colère observables un peu partout.
Sous quelle forme actuellement ?
Bah, par exemple, la dénonciation des politiques qui ont été celles des différents gouvernements dans la gestion de la crise sanitaire, la colère des travailleurs, des syndicats, la colère des soignants aussi. Ils sont certes très mobilisés, mais très en colère aussi d'avoir été finalement un peu abandonnés au début de la crise, et puis surtout qu'on ne leur ait pas fourni les moyens à temps pour réagir. Dans le contexte français, les soignants, il faut quand même le rappeler, s'étaient mobilisés lors des manifestations pour dénoncer leurs conditions de travail, etc. Donc ça n'a pas disparu. C'est passé au second plan parce qu'on est, encore une fois, en train de gérer la crise dans l'immédiat, de manière urgente. Ces demandes, ces revendications, légitimes par ailleurs, elles vont forcément réémerger, ça c'est évident. Et de ce point de vue, je crois que ça pose vraiment un défi au gouvernement, aux sociétés et aussi aux institutions multilatérales en termes de renouvellement de leur manière de procéder, de faire de la politique. Ce sont des questions très complexes, mais en tout cas, à l'issue de la crise sanitaire actuelle, je pense que ça reviendra très clairement au centre des débats et des enjeux.
Merci beaucoup, Mayam Benrad.
Merci.